Le programme Apollo.
Le programme Apollo.
5, 4, 3, 2, 1.
Le magazine du Collège Paul Bert. Actu, interview, culture, sport, cinéma,
littérature,
actu du collège,
blagues,
le programme Apollo,
les étoiles de l'info,
jusqu'au bout de la news,
jusqu'au bout de la news. Fécamp, bonjour la course de Paul Bert, on se retrouve sur Radar pour le programme Apollo. C'est une émission spéciale sur l'espace. Donc sans plus tarder, on va commencer avec Mathis. Bonjour. Tu vas nous parler de quoi ?
Les petites infos, ce qui se passe au collège en fait.
Ok, donc on va continuer avec Laurette, Rose et Elisa. Vous allez nous parler de quoi ?
Bonjour, nous allons vous parler de la Station Spatiale Internationale.
Ok, donc on va continuer avec Célestine qui va nous parler de la nourriture dans l'espace.
Oui.
Ah bah je t'ai cassé.
C'est pas grave.
Donc on va continuer avec Florian. Bonjour, tu vas nous parler de quoi ?
Bonjour, je vais vous parler du télescope James Webb.
Ok. Et on va terminer avec Selena et Morgan.
Bonjour.
Vous allez nous parler de quoi ?
Des trous noirs.
Ok, du coup sans plus tarder, on va commencer avec les infos au collège, donc de Mathis, donc c'est parti.
Bonjour à tous, bonjour à la cour du Paul Bert. Je vais vous parler aussi des petites infos du moment. En ce moment au CDI, une exposition sur les femmes célèbres pour la journée du 8 mars du droit des femmes. Des petits livrets sont disponibles au CDI pour les femmes célèbres qui ont marqué l'histoire. Il est possible de le compléter le livret pendant les heures d'études ou les récréations. De plus au CDI, un concours de dessin de manga est proposé. Deux thèmes sont abordés, un thème libre et un thème restreint, où on dispose d'une planche de manga à compléter. Les dessins sont à rendre avant le 13 mai. Merci beaucoup de m'avoir écouté et restez avec nous.
Le programme Apollo,
le magazine du Collège Paul Bert,
a fait quand ? Sur Radar.
Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter la Station Spatiale Internationale.
La Station Spatiale Internationale, ISS ou ESSI, est une station spatiale placée en orbite basse. Elle est en permanence occupée par une équipe internationale de 6 personnes qui se consacrent à la recherche scientifique de l'environnement spatial, comme par exemple les conditions de la vie dans l'espace afin de préparer des futurs voyages, ou alors à la recherche de la matière sombre manquante. Par exemple, elle a commencé à être construite le 20 novembre 1998 et elle est occupée pour la première fois en 2000. C'est l'engin le plus complexe et le plus coûteux jamais construit. La Station Spatiale Internationale est immense. Sa longueur est de 110 mètres et sa largeur est de 75 mètres, ce qui fait une surface d'un terrain de foot, et sa hauteur de 30 mètres. Pour finir, son poids est de 450 tonnes. Cela fait 75 éléphants d'Afrique. En un jour, elle fait 16 fois le tour de la Terre. Un vaisseau spatial peut arriver à la Station Spatiale aussi vite que 4 heures après le lancement depuis la Terre, ce qui est très peu.
La Station Spatiale Internationale est née de la collaboration de 15 pays liés par un accord intergouvernemental. Les États-Unis, principaux financeurs, la Russie, le Canada, le Japon et 11 pays européens, parmi lesquels la France. En ce moment, l'astronaute de la NASA, agence spatiale américaine, Jasmin Mogbelli, l'astronaute de l'ESA, agence spatiale européenne, le Danois Andreas Mogensen, l'astronaute de l'agence japonaise d'exploration spatiale JAXA, Satoshi Furukawa, et le cosmonaute de l'agence spatiale russe Roscosmos, Konstantin Borisov, sont dans l'ISS.
L'équipage de l'ISS est au complet depuis le 17 décembre avec l'arrivée du russe Anton Shklaperov, de l'américain Scott Tingle et du japonais Norishige Kanai. Pour finir, les gestes simples du quotidien deviennent vite compliqués à cause de l'apesanteur. Par exemple, pour uriner, Les astronautes emploient un tuyau avec un entonnoir situé à l'extrémité. L'urine produite est collectée dans un réservoir grâce à un ventilateur aspirant. Pour manger, les astronautes mangent des plats lyophilisés et pour la toilette, elle est sommaire. Les astronautes utilisent un type particulier de shampoing pour se laver les cheveux. On l'applique comme un shampoing normal, mais on l'essuie avec une serviette. Le rinçage à l'eau est inutile. Voilà, vous connaissez maintenant l'ISS, qui est aussi le plus bel endroit pour observer la Terre.
Le programme Apollo, les infos à la vitesse de la lumière.
On va continuer avec... Célestine qui va nous parler de la nourriture dans l'espace.
Alors excusez-moi, je fais une intervention, mais j'aurais voulu avoir quelques petites questions, un petit tour de table pour savoir un petit peu ce que vous pensez de l'ISS avant qu'on entame, parce qu'on enchaîne les sujets là, une vitesse complètement dingue. Mais et donc voilà, déjà bravo pour la chronique, parce que, enfin merci les filles, c'était très complet. Et est-ce que vous imaginez comment ça a été mis dans l'espace, c'est je ne sais plus combien d'équivalents d'éléphants et de stade de foot, comment on a fait en fait pour mettre cette espèce de gros immeuble en apesanteur, à votre avis? Est-ce que quelqu'un a une idée de réponse?
Je ne sais pas trop.
Non.
Tel qu'on a fait monter les pièces, enfin les trucs pièce par pièce.
Eh ben c'est un peu ça, c'est complètement ça d'ailleurs. On a fait de plusieurs fusées, plusieurs voyages, et en fait on a fait du Lego, mais dans l'espace en fait. On a rajouté des petits bouts petit à petit, et c'est devenu vraiment un truc énorme. Et en fait, dans tous les films de science-fiction, en fait, les vaisseaux qui sont en apesanteur, ou enfin qui sont représentés dans l'espace, on les a emmenés pièce par pièce. On a emmené les boulons, les poutres, etc. Et puis on a tout monté là-haut. Un par un. Est-ce que ça vous dirait un jour de... si vous aviez l'occasion, est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous aimeriez aller?
Ah non, pas du tout.
Alors,
moi, j'aimerais bien essayer.
Pourquoi non?
Parce que déjà, t'es tout seul.
Ouais.
Et aussi, s'il y a un problème, t'es seul, quoi. Tu peux pas être amené comme ça.
Ouais, alors il y a... toi, t'as le syndrome de Gravity. Je sais pas si vous avez vu ce film. Regardez Gravity, c'est vraiment quand on est perdu dans l'espace et que comment on va faire pour redescendre.
Ça doit faire peur.
C'est, il est très très bien. Ah. C'est avec Sandra Bullock. Et donc, toi, t'aimerais bien?
Oui, parce qu'on voit la Terre sous ses différentes formes. Enfin, voilà quoi.
Et oui.
Mais après, on n'est pas tout seul parce qu'il y a d'autres astronautes. Enfin, il y a toujours plusieurs équipes sur place, donc on n'est jamais tout seul et on est toujours en contact avec la Terre. Donc en vrai, moi, j'aimerais bien personnellement.
Ouais, mais après, si tout ton équipage et son bal, t'as plus de communication avec la Terre, là, c'est finito, quoi.
Ouais, mais je pense normalement c'est bien fait. Enfin,
Mais l'avantage, c'est qu'on peut, comme tu disais, c'est qu'on peut voir différents aspects de la Terre et on peut prouver qu'elle est ronde.
Non, elle est plate, elle est plate.
Elle est plate. Ah, il va falloir qu'on fasse une enquête hein, quand même là-dessus. Alors, oui, attends.
Bah, si elle est plate, l'eau, elle aurait, y aura plus de, y aura pas d'eau. Logique des choses. Bah, si elle est plate, l'eau, elle va se vider dans l'espace.
Oui, mais alors justement, en fait, c'est toute une question de physique.
Bah non, c'est comme un robinet, ça descend et ça remonte.
Ça n'est pas possible du tout, puisque en fait, la Terre est ronde. De toute façon, quoi qu'il arrive.
Ah non, mais là, c'est un complot.
Ça fait des milliers d'années qu'on s'acharne à dire que la Terre est ronde. On l'a découvert depuis bien longtemps. Donc voilà, et avec l'ISS, forcément, on le constate vraiment tous les jours, et même 16 fois par jour, parce qu'elle fait le tour de la Terre 16 fois par jour, cette station. On va enchaîner. Les petits amis. Alors, c'était qui? Donc, tu voulais lancer?
Non.
Non, il y avait la...
Ah, oui. Pardon, j'avais pas
bien compris. On va y arriver.
On est un peu fatigués.
C'est pas grave.
Bon, on va parler de la nourriture dans l'espace avec Célestine.
Le programme Apollo,
le magazine du Collège Paul Bert,
a fait quand? Sur Radar.
Oui, donc du coup, je vais vous parler de la nourriture dans l'espace. Donc, dans les années 1960, ils mangeaient des compotes dans un tube en aluminium. Mais aujourd'hui, ça a changé. Donc, ils mangent des plats indiens, asiatiques, etc. Donc, qui ont été créés par des chefs étoilés et lyophilisés. Donc, on leur a enlevé leur eau. Après, on a mis la poudre dans les sachets. Et comme ça, les astronautes peuvent mettre de l'eau et après, du coup, boire. Voilà. Mais donc, ils peuvent aussi prendre de petits plaisirs comme du Nutella, du beurre de cacahuète ou du parmesan. Mais il faut faire attention parce que... voilà, quoi. Mais... non, mais il ne faut pas non plus en prendre de trop parce que... voilà. Mais aussi, les Russes ne font pas comme tout le monde. Donc, avant le départ, ils choisissent les plats qu'ils vont prendre. Donc, après, ils vont les mettre dans des boîtes de conserve et ils vont les réchauffer directement sur place. Mais ce que la NASA aimerait bien faire, c'est qu'ils cuisinent directement là-bas. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions ?
Mais... Attends, j'ai pas bien compris. On enlève la poudre, enfin l'eau, puis après on met en haut, enfin on la fait monter la nourriture, et après on remet de l'eau.
Oui.
Bah oui, c'est pour que ça prenne moins de place.
Ah ok.
Je pense qu'ils emmènent des stocks dans l'espace. Genre, oui, ils vont pas prendre un repas par fusée, ça va faire.
Voilà, c'est. Bah oui, ça servira un peu à rien.
C'est bizarre.
Mais je crois même le lyophilisé, il a été inventé exprès pour les astronautes. Enfin, je crois que c'est la NASA vraiment qui a inventé. Que pour les astronautes, mais maintenant on peut prendre en randonnée et tout. Mais à l'origine, c'est que pour les astronautes, je crois.
Ah bah, je sais pas. on apprend des trucs ici.
En fait, il y a énormément de choses qui ont été fabriquées ou inventées pour l'exploration de l'espace et qui nous sert dans notre vie, dans nos vies quotidiennes. Et c'est ce qui mène justement à ces engins-là, ces téléphones portables, par exemple, aux micro-ordinateurs, etc. La miniaturisation des engins électroniques, c'est majoritairement fabriqué, inventé par la NASA justement pour réduire les coûts, les poids, pour réduire le poids des fusées, pour utiliser moins de carburant et la lyophilisation des aliments, ça en fait partie aussi. Et puis il y a les Russes aussi qui font, tu disais, alors eux, oui. Ils ramènent carrément des boîtes de conserve, oui. Ils s'en foutent en fait du, oui. Du poids qu'ils emmènent dans leur fusée, ils y vont quoi, ouais. C'est des bœufs hein. Alors, on continue ou qu'est-ce qu'on fait ?
On va le programme Apollo.
T'appuies sur des boutons. Oui, non, mais attends,
c'est un moyen de faire l'animation.
On va savoir déjà qu'est-ce qui c'est quoi la suite ?
Donc c'est Florian qui va nous parler de qui.
On est bien dans l'espace. Hein.
Il va nous parler du télescope James Webb.
Webb. Oui, ah. C'est ça, James Webb.
Ah bah je savais pas comment ça dit.
On y va la musique ?
Oui, c'est parti.
Allez.
Le programme Apollo, les infos à la vitesse de la lumière.
Avez-vous entendu parler du télescope James Webb ?
Oui !
Oui.
Oui.
Il a été lancé dans l'espace le 25 décembre 2021 et il capture des images inédites. Sa mission est de rechercher les premières étoiles et galaxies créées après le Big Bang. Des images prises avec une grande résolution. Il fonctionne avec de l'infrarouge. Il a été développé par la NASA et avec la participation de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence spatiale canadienne. Son nom rend hommage à un directeur de la NASA qui a contribué au premier pas de l'homme sur la Lune. Or juste pour vous dire, une année-lumière, l'année-lumière, c'est la distance que met la lumière à parcourir. Par exemple, 3 années-lumière, c'est la lumière qui met 3 ans pour parcourir cette distance. Donc avec ce système... Tout ce que l'on voit dans l'espace depuis la Terre est du passé, le temps que la lumière nous parvienne. Donc je vais vous décrire différentes... Il y a le télescope James Webb qui a pris différentes photos. Donc par exemple, la galaxie de la route Chariot, qui est une galaxie légèrement plus grande que la Voie lactée. Sa forme est issue d'une collision avec une autre petite galaxie. Il a pris aussi une célèbre photo qui s'appelle les falaises cosmiques, qui ressemble à une genre de falaise gazeuse. Sa distance est donc à 7600 années-lumière. Là, il y a beaucoup d'étoiles qui naissent, c'est une magnifique image. On a aussi la nébuleuse de la Tarentule, c'est un nuage de poussière dans le grand nuage de Magellan, qui est une galaxie, qui est d'ailleurs la plus grande galaxie que l'on connaît à ce jour. La naissance d'étoiles y est très importante, sa distance est à 160 000 années-lumière. Et James Webb a photographié une étoile mourante, on voit toutes les poussières autour qui sont les signes de son explosion. Vous pouvez retrouver de nombreuses photos de James Webb sur le site geo.fr. Mais la question que l'on se demande quand on parle de l'espace, c'est est-ce que nous sommes seuls dans l'univers ou est-ce que vous croyez à des extraterrestres ? Parce que peut-être que James Webb pourrait prendre potentiellement des photos de vie un jour sur certains astres.
Après, c'est possible qu'il y ait d'autres formes de vie parce que l'espace, c'est... Enfin, on ne connaît pas sa taille. Du coup, il doit bien y avoir au moins une planète avec des espèces, quoi. Enfin, vu que quand on regarde dans notre système, il y a déjà certaines planètes qui ont à peu près les mêmes conditions que la Terre.
Bah, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que quelque part dans l'univers et dans l'espace, bah, il doit y avoir une forme de vie parce que je trouve que ce n'est pas possible qu'on soit les seuls, quoi. Donc, après, ça, c'est la vie de chacun. Mais pour moi, il existe des extraterrestres ou des humains, et peut-être qu'ils s'appellent comme ça aussi, je sais pas.
Mmh. Bah, pour vous dire, dans l'univers, il y a plus de planètes dans l'univers que de grains de sable sur la Terre.
Ah ouais ? Ah bah c'est que ça doit être énorme. Bah,
c'est beaucoup.
En fait, l'univers est tellement grand, ça ferait un beau gâchis d'espace s'il n'y avait pas d'autres formes de vie que la nôtre, et ce serait vraiment triste. Enfin, je sais pas si vous vous imaginez. On est vraiment une toute petite poussière déjà, notre planète à nous, elle est vraiment extrêmement petite. Là, on vient d'envoyer un micro-pet fourmi dans l'espace qui prend des photos mais de malades tellement elles sont bien définies et on arrive à avoir une qualité de vue, comme tu disais, haute résolution. Avec l'immensité que ça représente, avec les milliards et les milliards et les milliards de planètes qui gravitent entre elles, les galaxies qui se rendent dedans, etc. Ce serait vraiment incroyable qu'il n'y ait pas une autre forme de vie ailleurs. Après, c'est forcément trop loin. C'est peut-être pas forcément aussi avancé ou moins avancé que nous. Ça peut être juste des animaux avec qui on ne peut absolument pas communiquer. Donc c'est forcément difficile, mais il y a forcément une autre forme de vie ailleurs, au moins des plantes, quoi.
Oui,
je pense.
Oui, c'est sûr. Des plantes, c'est plus sûr que de la vie.
Ça reste de la vie, les plantes.
Hein. Oui. Quelqu'un a encore quelque chose à dire ?
Alors, juste pour une petite info, en fait, dans l'univers entier, il n'y a que 8 planètes. Parce que tout ce qui n'est pas dans le système solaire, ce ne sont pas des planètes, ce sont des exoplanètes. C'est juste le nom qui change.
Ouais, sinon, c'est à peu près la même chose.
Oui, enfin, c'est la même chose.
Ouais, du coup, ça sert un peu à rien, quoi. On a beaucoup de planètes, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit.
En tout cas, c'est grâce à James Webb qu'on en découvre énormément. Depuis que ce télescope est arrivé, en fait, on se rend compte, on s'aperçoit qu'il y en a des milliards. On se doutait, mais à ce point-là, en fait, les scientifiques sont complètement dépassés, quoi. Enfin, ça devient un truc...
Mais peut-être qu'un jour, le télescope, il s'écrasera sur une planète et... Avec une autre forme de vie.
On a déjà envoyé des sondes, on a envoyé plein de trucs dans l'espace. Donc forcément, alors après c'est des grains de sable hein, qu'on envoie, c'est des pichenettes qu'on fait. Mais on ne sait pas où ça va atterrir.
Bref, bon,
voilà.
Du coup, sur ce, on va continuer avec Selena et Morgan qui vont nous parler des trous noirs. Du coup, c'est parti.
Le programme Apollo.
Le magazine du Collège Paul Bert.
A fait quoi ? Sur Radar.
Du coup, nous, on va vous parler des trous noirs. Donc, on va commencer par le commencement. C'est quoi un trou noir ? Donc, un trou noir, c'est un des objets célestes les plus mystérieux de l'univers. Du coup, ils viennent d'où ? Donc, ce sont des anciennes étoiles massives qui, au moment de mourir, deviennent un trou noir en s'effondrant sur elles-mêmes. Rien ne peut la détruire. En cas de rencontre, les trous noirs fusionnent pour devenir plus grands.
Mais alors, que se passe-t-il à l'intérieur ? Les objets avalés sont déformés, étirés, puis ils sont brûlés par la température de plusieurs milliards de degrés. Mais les trous noirs n'ont jamais avalé de planète. Cependant, tout ce qui passe à côté d'eux sont engloutis, même la lumière. Il y a jusqu'à 10 000 trous noirs dans notre galaxie.
Donc, ne vous inquiétez pas, parce que le trou noir le plus proche de la Terre est à 6 000 années-lumière, donc ce qui correspond environ à 60 milliards de kilomètres.
Comparé au Soleil, qui se trouve à 149,6 millions de kilomètres. Et vous, ça vous fait peur les trous noirs ?
Bah, pas trop quoi. Il y a très peu de chances qu'on en voit un, parce que le plus près, il est à des années-lumière, donc...
Oui.
Ouais.
Oui. Mais imaginez, ça arrivera peut-être pas, mais il y a un trou noir à 10 kilomètres de la Terre.
Bah oui, là, ça fait peur. Hein.
Bah oui, là, franchement...
Déjà, 10 km, c'est mort. Voilà, on est déjà mort avant qu'il soit là, le truc. Mais c'est... Voilà. Si vous voulez vous intéresser à une projection de comment ça se passe dans un trou noir, il y a Interstellar. Je ne sais pas si vous avez vu ce film.
Non.
Alors, il faut regarder des films sur l'espace, c'est vachement bien. Interstellar, donc, c'est un des films qui, justement, traite de comment ça se passe une fois qu'on rentre dedans. Il y a, je ne vous spoil pas le film, mais voilà, il y a un spationaute qui va essayer de rentrer dans un trou noir à un moment donné. Et donc, voilà, regardez ça. C'est une approche, le scénariste s'est laissé partir dans son imaginaire de comment ça se passe après. Donc Interstellar, à regarder. Est-ce qu'on a d'autres petites choses à se mettre sous la dent
Moi j'ai juste une question rapide. Est-ce que vous, ça vous fait peur, Selena et Morgane?
Bah, vu qu'il est très très loin, non, pas trop, mais s'il se rapproche, on peut dire que c'est la fin du monde, on peut tous mourir, donc en vrai... ça risque pas d'arriver en ce moment, donc pas vraiment. Mais s'il y en avait un, genre par exemple à côté du soleil, ça ferait peur quoi. Moi ça me ferait peur en tout cas.
Okay. Les trous noirs se déplacent, mais je pense pas qu'ils puissent arriver jusqu'à la Terre.
Ok, du coup, encore une personne va nous dire un truc. Attention, j'ai peur.
Question. Après, je crois que si le trou noir il absorbe la Terre, il va pas la mettre en millions de petites particules. J'ai un petit doute, je crois.
C'est à prouver.
C'est complètement ça. Normalement, en fait, on est totalement désintégré, comme c'est expliqué dans la chronique. Tout se ramasse. C'est-à-dire que la masse d'un trou noir, elle est équivalente à je ne sais pas combien de milliards de soleils, concentrés sur une tête d'épingle. C'est tout petit, en fait, à l'intérieur d'un trou noir. Le nombre de matières concentrées équivaut à vraiment une tête d'épingle. C'est comme si on mettait... je ne sais pas combien de milliards de soleils, mais dans une tête d'épingle. Tellement, et la tête d'épingle serait évidemment impossible à soulever, en fait. Donc, et c'est ce qui fait que ça avale des soleils, ça avale des astres entiers. Voilà. C'est ça, en fait, qui est assez flippant. On finit sur une super note gay. Hein.
Génial. Et du coup, pour les élèves du collège qui aimeraient en savoir plus, il y a des livres disponibles au CDI ou dans les pages... Il y a du coup des images des trous noirs, etc. Et plein de choses sur les espaces. Donc sur l'espace. Donc ceux que ça intéresse, vous pouvez venir voir au CDI. Voilà.
Donc merci à tout le monde d'avoir participé et d'avoir écouté. Donc au revoir tout le monde. Et donc vous pouvez nous retrouver tous les jeudis de 13h à 13h20. Et aussi nous écouter sur Radar. Donc c'était, c'était le programme Apollo. Au revoir, à la semaine prochaine. Bisous.
Salut. Salut.
Le programme Apollo.
Le programme Apollo.
5, 4, 3, 2, 1.
Le magazine du Collège Paul Bert. Actu, interview, culture, sport, cinéma,
littérature,
actu du collège,
blagues,
le programme Apollo.
Les étoiles de l'info.
Jusqu'au bout de la news.
Jusqu'au bout de la news.